Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Agnès Buzyn. Je voudrais tout d'abord qu'on évoque ce virus qui inquiète en Chine et au-delà, un virus qui se transmet entre humains. Il a fait une quatrième victime. Quelles mesures de prévention sont prises chez nous en France ?
Alors, la situation est suivie de très près depuis plusieurs semaines déjà par le ministère de la Santé et par l'Organisation mondiale de la Santé. Donc il y a des réunions régulières aujourd'hui. Les voyageurs qui reviennent de Chine, quel que soit leur trajet, reçoivent une information sur la conduite à tenir en cas de température. Il leur est demandé, s'ils sont fébriles et s'ils se sentent mal, de ne pas se rendre aux urgences, de ne pas aller chez un médecin, mais d'appeler le centre 15. Et toutes les autorités sanitaires, aujourd'hui les SAMU, les laboratoires de virologie, les hôpitaux, sont informés du risque et donc vont chercher les personnes et les emmènent dans des lieux qui leur permettent de ne pas être en contact avec le reste de la population. Donc ces recommandations sont données à tous les voyageurs qui arrivent aujourd'hui.
Voilà pour les recommandations sanitaires. Et en ce qui concerne l'aéroport de Paris, est-ce qu'il y a eu des instructions précises ? Est-ce que l'aéroport de Paris va en recevoir pour ces personnes venant de zones épidémiques ?
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines, voire plus de 100 vols par jour qui arrivent de Chine, dans 12 aéroports français. Donc les recommandations aux aéroports ont été données. Les personnels au sol savent exactement quoi faire en cas de fièvre au retour de Chine.
Et, c'est-à-dire mettre
donc la personne de côté.
Contacter tout de suite les services sanitaires.
Et contacter le 15. Mmh. Les services sanitaires et le SAMU sont parfaitement informés de la conduite
à tenir. Mais pas de restriction de voyage pour les Français qui nous écoutent, qui pour des raisons professionnelles ou vacances vont aller en Chine. Pas d'annulation à prévoir ?
Pas d'annulation à prévoir pour l'instant. Ça reste une épidémie qui est pour l'instant encore cantonnée. Une réunion aura lieu à l'Organisation mondiale de la santé demain, donc nous verrons si les Européens prennent des mesures supplémentaires.
C'est le plus important, hein, c'est que ce soit fait au niveau européen, ça ne sert à rien à notre niveau seul.
Absolument. Nous considérons aujourd'hui que les réponses doivent être européennes, car vous pouvez avoir une personne qui atterrit à Bruxelles et qui arrive à en France par la route. Et donc nous devons prendre les mêmes mesures dans tous les aéroports européens.
En France, sur le front social, Agnès Buzyn, une action coup de poing, encore une. Le siège de la CFDT de nouveau pris pour cible avec une coupure d'électricité revendiquée par la CGT Énergie Île-de-France. Ces actions, elles se banalisent dans notre pays ?
Je pense qu'il y en a trop. Que la violence est devenue très souvent un mode d'expression de personnes radicalisées qui ne sont pas la majorité, parce que je pense que la majorité des Français s'opposent à cette violence. Donc c'est une minorité agissante, très visible, très audible, mais je considère aujourd'hui que c'est une dérive parce que la démocratie permet le dialogue et que c'est ce dialogue que nous mettons sur la table.
Oui, mais justement, vous dialoguez, vous condamnez, mais vous êtes au pouvoir. Vous ne pouvez pas seulement être dans la dénonciation, vous devez être dans l'action. On dirait que vous commentez ces actions.
Alors, je le commande, moi, ministre des Solidarités et de la Santé, mais évidemment, Christophe Castaner est en charge du maintien de l'ordre. Et donc, il est en charge d'éviter les actions violentes qui se... C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit une action violente au sein d'un syndicat. Je comprends le choc de Laurent Berger, alors que ce sont des syndicalistes qui ont pénétré dans le siège de la CFDT. Je pense que c'est...
Mais vous faites la différence entre des militants qui ont pénétré et la direction de la CGT, ou alors pour vous, ceux qui mettent le feu dans ce climat social, c'est des militants ou la CGT, pour qu'on comprenne ?
Ce sont des militants. Je pense que la CGT, évidemment, n'est pas favorable à ce type d'action violente. Pour autant, je pense que la dérive des mots et la violence aujourd'hui des prises de position d'un certain nombre de responsables politiques, si tant est qu'ils sont encore responsables, favorise ce genre de passage à l'acte violent. Donc moi, je crois qu'il faut être très respectueux aussi dans la façon dont on s'exprime vis-à-vis des syndicats, des politiques.
Il y a ce climat que vous dénoncez, Agnès Buzyn. Il y a aussi le fond, c'est important, de la réforme des retraites. Concernant les agents hospitaliers, je voudrais qu'on s'y arrête. Vous allez devoir compenser. C'est important, la fin de ce que l'on appelle les catégories actives qui leur permettaient de partir plus tôt. Est-ce que ce matin, vous pouvez les rassurer ? Comment ça va se passer ? implique concrètement cette compensation ?
Alors, nous travaillons avec eux, les négociations ont déjà débuté pour voir comment...
Ah, dis donc, c'est long, oui.
Non, ça a commencé la semaine dernière. Mmh. Nous avons commencé il y a une semaine, donc pour voir comment nous pouvons appliquer les critères de pénibilité à la fonction publique hospitalière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on prend en compte, par exemple, les nuits de garde. Aujourd'hui, elles ne sont pas comptabilisées et c'est compensé par un départ à la retraite précoce. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que toutes les infirmières, aides-soignantes, qui aujourd'hui ont des suggestions, comme on dit, c'est-à-dire des obligations d'être là la nuit, le week-end, auront des points liés à la pénibilité, ce qui leur permettra.
Ça, c'est important. Vous le garantissez.
Oui, ce sont évidemment les mesures que nous prenons pour compenser la difficulté de ce travail. Ça leur permettra de partir à la retraite plus tôt en accumulant des points de pénibilité.
Et plus largement, il y a le malaise qui perdure des urgences. Vous venez de lancer, Agnès Buzyn, le deuxième volet de la loi Ma Santé 2022 dédiée à l'hôpital. Vous l'avez fait, dont acte, mais vous entendez ce qu'ils vous crient, ces personnels ? Trop tard, Madame la Ministre.
Alors, trop tard. C'est pas tout à fait vrai parce que la première partie de Ma Santé 2022, elle est indispensable pour que l'hôpital public puisse fonctionner. La première partie, c'était vraiment organiser la médecine de ville pour qu'elle puisse prendre en charge un certain nombre de patients qui aujourd'hui, par exemple, vont aux urgences parce qu'ils ne trouvent pas de médecin. On a besoin d'organiser l'accessibilité aux soins en médecine, ce qu'on appelle de ville, c'est-à-dire en médecine libérale, de façon à ce que l'hôpital ne soit pas le réceptacle de tous les dysfonctionnements de notre système de santé. Ça a été fait, la loi a été votée, et maintenant je mets des moyens sur l'hôpital public parce qu'il a été pendant trop longtemps victime de baisses budgétaires, 10 ans de baisses budgétaires consécutives. Nous sommes en train de rattraper le retard pris en termes d'investissement, en termes de valorisation des personnels, et d'ores et
pas
déjà...
Pas suffisant, mais en tout cas, vous avez mis l'enveloppe budgétaire sur la table.
Et surtout, ça commence ce mois-ci. Bon. Ce mois-ci, les premières actions,
palpable, les premiers, mais ça va venir, on aura d'autres occasions d'en reparler.
Les premiers chèques ont été donnés aux hôpitaux ce mois-ci pour que les personnels puissent acheter, par exemple, du matériel.
Agnès Buzyn, je voudrais maintenant qu'on parle d'un texte important. Il arrive aujourd'hui au Sénat, le projet de loi bioéthique. Et je voudrais d'abord vous faire réagir à la mobilisation qui a eu lieu ce dimanche. Les anti-PMA ne désarment pas. Quelle est votre attitude ? Est-ce qu'il faut écouter, respecter leurs paroles, leurs inquiétudes, même si vous n'êtes pas d'accord? Et peut-être même, j'ajouterais, surtout si vous n'êtes pas d'accord.
Oui, d'ailleurs, c'est l'attitude que nous avons eue. Ça fait 2 ans que nous travaillons à ce texte de loi. Nous avons beaucoup, beaucoup écouté. Je pense que...
Vraiment, on a l'impression parfois qu'il y aurait un camp dit progressiste et de l'autre, les réacs, pardonnez-moi, classés, les anti-PMA, et que de l'autre côté, ce serait le camp entre guillemets du bien.
Vous ne m'avez jamais entendu parler.
Vous, peut-être.
Non, personne dans le gouvernement. Nous portons la loi à 3 avec Nicole Belloubet, Frédéric Vidal. Nous sommes 3 ministres très précautionneuses dans les mots que nous utilisons pour ne choquer personne. Il y a des convictions personnelles, il faut les entendre. Après, le gouvernement fait un choix, c'est un choix de société. Nous l'assumons, mais nous respectons parfaitement que les prises de position contraires.
Comme celle, par exemple, de Sylviane Agacinski. Est-ce que vous réfléchissez à ces arguments, aux arguments de la philosophe qui vous alerte, nous alerte depuis d'ailleurs des décennies sur les conséquences, en particulier de votre projet en termes de nouveau type de filiation?
Oui, nous les écoutons. D'ailleurs, les débats sur la filiation ont été très, très, très intenses et nombreux. Nicole Belloubet porte cette partie du texte. Moi, je voudrais dire qu'on parle beaucoup de la PMA. Et je comprends que c'est quelque chose qui puisse intéresser, voire choquer la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes. Mais en réalité, dans cette loi, il y a des mesures beaucoup plus transformantes pour la société. Je pense à toutes les analyses génétiques qui pourraient être rendues possibles ou pas. Moi, je reste convaincue que les analyses génétiques aujourd'hui doivent être faites sur prescription médicale, avec un avis médical, une indication liée à une maladie dans la famille.
C'est important ce que vous dites, Agnès Buzyn. Vous parlez des autres articles. Permettez-moi de citer une autre référence. Philippe Mérieux, vous connaissez, professeur émérite en sciences de l'éducation, qui se fend d'une tribune dans Libération. C'est important. Lui, il soutient l'extension de la PMA, mais il s'inquiète des autres articles. Voici ce qu'il dit. Il considère qu'avec la possibilité de fabriquer des enfants en manipulant les données génétiques selon notre bon vouloir, ce projet de loi change radicalement le rapport anthropologique de l'humain à la procréation. Nous ne sommes pas là dans des joutes politiques ni politiciennes, ça va au-delà, ça nous engage pour l'avenir.
Oui, c'est exactement ce que ne permet pas la loi dans le texte que nous avons présenté. Donc nous avons présenté un texte de loi qui ne favorise pas les analyses génétiques et justement qui ne favorise pas le tri d'embryons.
Pourquoi tant d'inquiétude ? Pourquoi tant de crispation de ces spécialistes, de ces gens qu'on ne peut pas accuser d'avoir des avis à l'emporte-pièce ?
Parce que la commission qui a analysé le texte au Sénat a été contre le gouvernement, qui justement mettait des limites et ne souhaite pas une extension des analyses génétiques ni en population générale, ce qu'on appelle les tests génétiques récréatifs. Ils sont interdits en France. Je le rappelle, beaucoup de Français utilisent ces tests et envoient leurs prélèvements à l'étranger pour les faire. Je rappelle qu'ils sont interdits par la loi et que les Français risquent une amende lorsqu'ils font cela. Et nous souhaitons que ces tests continuent d'être interdits. C'est la même chose pour le tri d'embryons, nous ne sommes pas favorables à un tri d'embryons sur des critères génétiques.
Je voudrais conclure, Agnès Buzyn, quand même sur la PMA. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour du remboursement de la PMA. Pour certains, c'est un dévoiement de la sécurité sociale. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Comment vous expliquez que les hôpitaux manquent de moyens, mais l'assurance maladie peut trouver facilement de l'argent pour financer à 100% des PMA sans indication thérapeutique?
Alors, il n'y a pas plus d'indications dans les couples hétérosexuels aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il suffit d'arriver dans un centre de PMA et dire qu'on n'arrive pas à avoir un enfant pour avoir droit à une PMA remboursée. Personne ne va vérifier pour savoir ce qui se passe dans la chambre et savoir si les personnes ont eu des rapports sexuels ou pas. Donc en réalité, on n'a pas besoin d'apporter la preuve d'une infertilité ou d'une stérilité pour accéder
certes, mais
aujourd'hui...
Mais est-ce que la solidarité nationale est faite pour rembourser ces actes? C'est une vraie question.
Mais aujourd'hui, déjà dans les couples hétérosexuels, personne ne doit prouver qu'il est infertile pour accéder à la PMA.
Merci Agnès Buzyn et on espère avoir un débat apaisé sur ces questions si importantes. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1.